Salut les Smart et les Marx.
Salut, salut, comment allez-vous? Désolé, j'étais super concentré, on s'occupe des réseaux sociaux. Salut les Smart, salut les Marx. Et bienvenue dans cette review toujours aussi organisée. Vous connaissez le label Catch-Up, le label du travail bien fait. Cette review d'NXT War Games, Takeover War Games, qui s'est passé ce samedi dernier à Dallas, dans le Texas. L'homme qui a pris le relais pour ma mauvaise transition, c'est monsieur l'amiral Armbar qui me rejoint aujourd'hui.
Salut Hank, salut tout le monde. Et ouais, si vous vouliez voir le meilleur show de cash du week-end, c'était NXT War Games. Et si vous voulez entendre ou voir le meilleur podcast de cash du début de semaine, bah vous êtes au bon endroit. Catch Up, on est là. Bienvenue.
Représente.
Catch up, baby.
Donc, attendez, je mets juste le chat devant moi et on est parti. Voilà. Donc, ce pay-per-view était plein de matchs attendus, mais nous allons parler d'abord du match qui n'était pas vraiment attendu. C'était Cassius Ohno contre Lars Sullivan. Un match, donc, du coup. Dans le prétexte, j'en ai parlé dans le pré-show, donc si vous voulez avoir un petit peu nos avis sur les feux de tout ça, n'hésitez pas à regarder aussi le pré-show de NXT. Mais voilà, le prétexte c'était que Cassius Ohno est le seul à s'opposer à Lars Sullivan, qui est une force instoppable, une sorte de Braun Strowman de NXT en ce moment.
Et que c'est un méchant et que bah, Cassius Ohno c'est un gentil, donc allons-y oui. Quoi.
Oui, ça aussi. Donc c'était un match à un seul sens hein, puisque Sullivan a commencé très violemment avec des coups de genoux dans les côtes de Cassius hein, il l'a mis à terre directement et puis alors c'est parti pour les coups de genoux, des clotheslines qui font voler à 180 degrés. Cassius a eu un petit retour hein, après un frog splash raté de Sullivan ou crossbody, enfin bref, ce qu'il a fait était raté. Et après Cassius du coup il en a profité pour faire sa séquence de coups de coude hein, il est bien connu pour ça, dont un sur le crâne de Lars hein, donc on a cru le géant sonner et puis il a enchaîné avec le cyclope kick Ohno pour un tombé de 2. Mais Lars reprendra très vite le dessus hein, la bête s'énerve. Et il va caser assez rapidement son freak accident, une sorte de slam sur le côté, pour le compte de 3, 1, 2, 3, victoire de Lars Sullivan. Ma question, es-tu impressionné, amiral?
Impressionné qui décide effectivement d'aller un peu comme tu le disais, hein, avec Lars Sullivan dans la même direction, la tradition Braun Strowmanienne, en faire un monstre indéfectible, puisque là c'était ce qui manquait à Lars Sullivan, un match de référence contre un face qui a la carrure comme Cassius Ohno, c'est chose faite. Hein. La vraie question c'était ça, qu'est-ce qu'ils allaient pousser, est-ce que c'était Cassius Ohno qui allait avoir un peu de push dans la carte, ou est-ce que c'était Lars Sullivan? Et bien on a notre réponse. Impressionné, pas tellement, le match était pas très long, ça c'était le bon point. Impressionné surtout dans le fait, la seule chose c'est que Lars Sullivan a eu l'impression de passer au travers de tous les assauts, tous les coups de coude dans la tête, dans la nuque, dans le crâne comme tu disais de Cassius Ohno. Donc ouais, Lars Sullivan a l'air vraiment invincible suite à ce match, et on peut noter qu'il ne s'est pas acharné sur Cassius Ohno à la fin du match hein, ce qui était un peu sa signature jusqu'à présent, et continue à massacrer ses adversaires même après la victoire et l'annonce de l'arbitre. Donc ouais, un gros combat de mastodonte, un opener dont on n'attendait pas grand chose, qui a donné quelques trucs mais bon, qui n'était pas non plus excitant. On a vu mieux sur Takeover, mais c'était pas dégueulasse non plus.
Oui, mais je parlais impressionné pas tant par rapport au booking, mais juste par rapport à Sullivan. Qu'est-ce que tu penses du mec en lui-même, quoi?
Alors, il est monstrueusement impressionnant physiquement. Il a une gueule pas possible, hein, et je trouve qu'il capitalise bien. Il avait les expressions où il était vraiment dans son rôle tout du long de mec un peu de Cro-Magnon, le chaînon manquant qu'il y a. Et moi j'avais bien aimé une fois, il y a 3-4 semaines à NXT, il avait fait une promo backstage qui était super drôle, où il était méchant, il racontait un peu n'importe quoi, comme s'il utilisait des mots pas dans le bon sens du terme. Tu voyais, tu sentais que c'était volontaire, et j'ai été étonné de la capacité au micro de ce mec-là qui pourrait pu être un méchant gros balai générique. Et je pense qu'il a un potentiel, et c'est pour ça que ce soir, enfin du moins NXT Takeover, il a gagné, parce qu'il a ce potentiel physique et aussi ce potentiel de faire de la comédie, de faire de la promo. Donc là, je pense qu'il y a, il y a de bonnes chances, s'il est booké dans le bon avec des choses assez intelligentes, qui deviennent un des top heels dans les mois à venir de NXT. Donc à voir où va s'aller, où il va s'arrêter, quelle est la limite dans le ciel pour Lars Sullivan. Mais en tout cas, il a de quoi, il a de quoi effectivement de, au moins d'essayer de se faire monter, de se faire pusher dans le, dans le haut de la carte.
Il m'a fait penser à un autre mec de NXT qui ouais, a disparu, et qui était un Français, si je ne me trompe pas, qui était un grand chauve dont je ne me souviens pas le nom. Je crois qu'il s'appelait Marc quelque chose. Si dans le chat vous vous en souvenez, mais c'était une espèce de géant brutasse comme ça, un petit peu psychotique. Et donc il a pas fait très long feu, mais voilà, j'arrive plus à retrouver le nom, donc du coup n'hésitez pas. Bon allez, on va passer au match, à la storyline sûrement la plus captivante de ces dernières semaines à NXT.
Oui.
C'est Aleister Black contre le Velveteen Dream. L'enjeu de ce match: est-ce qu'Alistair va prononcer le nom de Velveteen? Donc, un match assez fou, hein, tout d'abord, parce que Velveteen Dream, aka Patrick Clark, hein, si vous n'avez pas suivi Patrick Clark, qu'on avait vu sous le nom de Patrick Clark, hein, il y a quelques années, et qui vient de Tough Enough, il est arrivé dans un attirail magnifique, fait d'un haut en mode indienne chic, un petit peu,
oui,
avec un pantalon en sorte de cuir synthétique, avec l'entrejambe couleur arc-en-ciel, ainsi qu'une coupe de cheveux digne de Ruby Rhodes, hein, dans le cinquième élément. Et en arrivant sur le ring, il enlèvera donc du coup ce pantalon découpé au milieu pour dévoiler un cycliste, ou du moins un truc en spandex, où l'on voit un portrait d'Alistair sur une jambe et le portrait du Velveteen sur l'autre, avec le logo NXT sur son cul.
Marqué Say My Name, juste là sur la ceinture, marqué Say My Name.
Say My Name, voilà, du grand art. Mais on va parler du match. Donc, ça a commencé avec un enchaînement de soumissions d'Alistair Black sur Velveteen, hein, des armes drag ultra rapides, mais dès que Velveteen tente de les contrer, il se retrouve au sol dans une clé de bras, ensuite dans un crucifix hold, donc c'est où ils appellent ça aussi octopus, je ne sais plus quoi.
Un modified octopus, enfin c'était n'importe quoi, modified ça, donc c'était octopus, très rigolo.
Donc juste après un moment de psychologie ou de comédie assez magique, avec Velveteen qui est repoussé par Black à l'extérieur, et Alistair prend son élan à l'opposé pour préparer une suicide dive, mais voyant que Velveteen va se relever, il saute sur la deuxième corde, fait un backflip, puis se pose en tailleur tel un sage. Et tandis que Black arrive, enfin à ce moment-là, Black arrive dans le ring pour essayer de le choper, mais il tombe du coup Velveteen arrive dans le ring pour le choper, il tombe sur Black comme ça en mode sagesse, et il regarde genre quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pas totalement démonté, Velveteen décide de mimer la posture d'Alistair. Donc du coup, ils sont tous les deux en train de faire un peu de yoga. Et ensuite, Alistair, eh bien, il décide de mimer le Velveteen lorsqu'il s'allonge sensuellement devant son adversaire. C'est une sorte de combat de charisme et de sensualité. Velveteen est perturbé, mais c'est à ce moment-là que le match, du moins la violence commence vraiment entre les deux. Les deux s'envoient des coups très violents. Hein. Dream tente un tombé juste après un super kick à un moment, tombé de deux. Puis une nouvelle fois après un neck breaker, hein, tombé de deux. Plus tard, il y a Alistair qui reprend un petit peu ses esprits et finit avec un. Donc du coup, il fait une sorte de combo et puis finit avec un springboard. Quebrada, hein, ça s'appelle sa prise, c'est une sorte de moonsault sur la deuxième corde, mais Velveteen s'en sort. Velveteen qui a tenté plusieurs fois son Death Valley Drive et a réussi à le caser, mais tombé de deux. Casera plus tard aussi un DDT modifié assez flippant, mais bon, Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses quoi de cette espèce de DDT?
Ah non, c'était impressionnant. C'était vraiment.
Ah oui.
Voilà, c'est. Waouh! Tu demandes s'il n'est pas blessé, s'il n'y a pas Aleister Black qui a le crâne enfoncé dans le ring.
C'était,
enfin,
c'était la soirée des DDT de la mort.
Ouais, on peut dire ça.
Tout ça se termine avec, bien sûr, le Black Mass d'Aleister pour le compte de 3. À la fin du match, Aleister prend le micro et il dit « Peu ou prou, profite de cette infamie Velveteen Dream. » Infamie, popularité. Donc voilà, et il repart le visage grave. Une belle histoire. Qu'en penses-tu, Amiral?
3 gagnants à ce match. Aleister Black a gagné le combat et continue sa streak d'invincibilité. Le Velveteen Dream a entendu son nom prononcé par Aleister Black, donc il a gagné. Et les troisièmes gagnants, c'est nous, parce que c'était une putain de match, une putain d'histoire qui était racontée dans le ring, qui tenait sur pas grand-chose. Hein, quand on résume, effectivement, bah voilà, il y en a un qui cherche la reconnaissance de l'autre, il veut lui faire dire son nom, c'est tout. C'est pas être très épais. Mais ouais, ce qu'ils ont donné dans le ring, ça rendait vraiment super bien. Quoi. Et moi, j'ai regardé TakeOver avec ma copine qui regarde du catch une fois tous les X mois avec moi, et vraiment ce match là était clairement au-dessus pour elle. Elle a vraiment trippé, elle a été investie dedans, les personnages, elle a trouvé tous les deux extrêmement bien. Il y avait une frontière qui était assez subtile entre le face et le heel. On a même le public hein, était à un moment donné pour Velveteen Dream, qui a été la révélation de ce match. Il y a eu beaucoup de chants pour lui, des gens qui l'encourageaient, des gens qui voulaient qu'Aleister Black dise son nom. Moi j'ai adoré le moment où Velveteen Dream disait à l'arbitre: Ask him my name, demande-lui mon nom. C'était super drôle. Et puis ouais, des spots aussi impressionnants. Athétiquement, Velveteen Dream est vraiment aussi assez incroyable avec sa taille, son dynamisme. Ouais, 22 ans seulement le mec. Ben,
ouais.
Chapeau. Vraiment là, il y a un truc à faire qui est assez énorme. Et moi, je suis ravi de cette storyline, cet affrontement. La fin en plus, elle est belle, ce qui est raconté. L'autre qui reconnaît que Velveteen Dream a fait un bon match et s'est donné, et finit quand même dans une petite tente à lui dire son nom, à lui donner satisfaction. C'était juste génial. Voilà. Dans le catch, quand on a un bon match avec deux gars qui mouillent le maillot, qui font des spots extraordinaires, et que c'est speed avec de la psychologie dedans qui raconte une histoire, c'est génial. Et ben là, ce match et cette storyline étaient géniales.
Ça manque, ça manque tellement dans le roster principal.
Ah putain, mais ouais.
Des histoires où les gens ont un rapport psychologique qui va au-delà du t'es moins bon que moi ou je veux ta ceinture, tu vois. C'est un angle, c'est pas facile à faire. Hein. Faut avoir les bonnes personnes et tout ça.
Ouais, on a Jericho Owens par exemple qu'on avait vu sur l'officiel de la métier. C'est ça où ça devient personnel et c'est pas autour d'un titre, c'est pas autour de trucs comme ça qui sont assez classiques. Mais non, ça prend un charme particulier. On s'investit dedans. C'est un côté un peu soap opéra dans le catch qui est aussi intéressant. C'est pour ça qu'on le regarde. Non, c'était vraiment, vraiment très cool. Quoi. On avait là deux duellistes, deux chevaliers qui étaient tous les deux très, très bons. Il y en a un qui voulait être adoubé par l'autre. Et ben voilà, ouais, c'est fait.
Et il y a eu les deux dans le match. Enfin, ça, c'est pas moi qui y ai pensé directement. C'est pareil, c'est un truc que j'ai entendu sur Fightful. Décidément, j'arrête pas de leur faire de la pub. Mais sur le fait que le match était divisé en une première partie qui était très storytelling et la seconde partie qui était catch, quoi. Enfin, qui était... Ouais. Purement action, et c'est ce qui a fait le charme aussi du truc, parce que ils auraient pu faire aussi un match très très dans la posture et puis finalement faire gagner Black assez rapidement. Et non, ils ont décidé de montrer quand même Velveteen qui a dominé pendant bien 5 minutes hein. Donc
ouais, clairement il a été l'adversaire qui a donné le plus de fil à retordre à Aleister Black, et c'est très bien parce que Aleister Black, bon, il continue sur sa trajectoire qui va l'amener à un match pour le titre dans un futur très proche certainement. Et Velveteen Dream en ressort aussi très grandi, et qu'il soit heel ou non, c'est pas trop, qu'importe, il a pris de la stature dans la carte indéniablement au sein du roster NXT. Il a posé sa marque, très très bon match qui les deux en ressortent grandi en fait, et ça c'est cool aussi.
Et le public était plus pour Velveteen que Aleister.
Ouais. Ouais.
Étrangement. Je sais pas d'où vient Patrick Clark, s'il vient du Texas, mais en tout cas, c'était. Ça se voyait que le public mangeait dans sa main. Dans le chat, on a Koala qui nous dit donc du coup, match de la soirée. grosse psychologie, des moves impressionnants. Et puis, oui, alors c'était quoi déjà la référence? J'ai entendu ça, qu'il y avait une référence à Rick Rude. Bah, c'était le truc du pantalon, en fait, je crois.
Ouais,
Rick Rude avait fait la même. D'accord. Bon, alors, on va passer au match féminin. Alors, Nikki Cross contre Ember Moon, contre Peyton Royce, contre Kairi Sane, pour la ceinture féminine NXT. Donc parmi les spots les plus impressionnants dans ce match, on a eu d'abord une topée suicida de Ember sur Kairi et Peyton à l'extérieur. Et juste après ce mouvement assez risqué, on a eu Ember qui a contré, donc Nikki qui tente d'attaquer Ember. Ember qui la contre, puis la porte, puis lui fait une bonne vieille powerbomb sur le sol, devant le ring, qui mettra KO Nikki pendant bien 3-4 minutes. Plus tard, on a Kairi Sane qui est envoyé par Moon une nouvelle fois dans les cordes, puis passe en dessous des jambes de Moon en casant un spear sur Peyton Royce. Ça, c'était aussi assez inattendu. Enfin, ça fait partie des spots un peu surprises. On a une Tower of Doom aussi, avec Kairi qui est tout en haut, Ember au milieu, et puis Peyton qui fait s'écrouler tout le monde. Nikki Cross est revenue rapidement pour piétiner Ember Moon et Kairi Sane. Elle balance Peyton par-dessus la troisième corde, puis balance son finisher sur Kairi, hein, c'est une sorte de, je sais plus, turning
Crossroad, Fisherman Crossroad, Twisting Neckbreaker, enfin ce genre de truc un peu à la, effectivement, Cody Rhodes et à la aussi Elias, hein, plus voilà. Récemment.
Donc du coup elle fait le tomber sur Kairi, mais Ember la coupe à deux. Peyton tente son Fisherman Suplex sur Nikki, mais seulement deux. Kairi aussi balancer son Insane Elbow, hein, sur Royce et Nikki en même temps. Elle fait tomber sur Nikki, mais une nouvelle fois Ember la sauve, hein, comme on croirait presque Ember Moon est pote avec Nikki Cross. Mais donc ça se finit avec Ember Moon qui balance son Eclipse en même temps sur Nikki Cross et Peyton Royce, hein, de la troisième corde, puis fait le tomber sur Nikki. 1, 2, 3, Ember Moon est championne, on a raconté de la merde dans le pré-show.
Vous avez dit quoi dans le pré-show là-dessus?
Non mais dans le pré-show déjà, ouais. On n'a pas calculé que c'était au Texas, donc bon. Après, il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'es dans ton pays que tu gagnes. Enfin,
dans ta ville, ouais.
Dans ta ville. Mais d'ailleurs, quand t'es dans le roster principal, Vince McMahon, il fait en sorte que tu gagnes pas chez toi. Ça, c'est
grand classique. On remarque Charlotte récemment a prouvé le contraire, mais bon.
Et pour finir, en fait, on a d'abord on a
William Regal qui arrive avec la ceinture.
William Regal, voilà. William Regal qui arrive avec la ceinture. Mais en fait, juste derrière William, et y a Asuka qui arrive pour féliciter la championne, toute copine. Et puis voilà, le passage de torche, tout ça. Bon, j'ai trouvé ça un peu particulier comme idée, hein, parce que c'est la championne invincible qui vient la saluer d'avoir tué quelqu'un, mais genre tu m'as jamais battu, donc du coup c'est...
Oui,
je te respecte, mais t'es moins bonne que moi quand même.
C'est ça. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'Asuka était vraiment genre toute mignonne, toute gentille, presque kawaii, voilà. Alors que bon, concrètement,
vers la fin, elle était plutôt heel, quoi.
C'est ça. La cohérence, elle est pas vraiment là, mais bon, on s'en fout. On peut se dire qu'elle est maintenant au main roster et que c'est pas très
c'est
grave.
NXT, ces deux dernières années, dès qu'ils peuvent ramener des bouquets de fleurs et dès qu'ils peuvent s'embrasser dans le ring, ça y va. Hein, les serrages de main solennels. Ouais. Oh, ça c'est
très à la japonaise, les bouquets de fleurs. Hein. C'est une tradition au Japon, à New Japan, et c'est pas Ringsan qui nous contredira que pour les gros matchs, les catcheurs se font remettre des gros bouquets de fleurs. Je sais pas, je pense que c'est pour donner l'occasion aux heels de tracher les bouquets de fleurs par terre, j'en sais rien. Bref, non mais bon match, hein, les quatre. Alors oui, effectivement, qui aurait pu gagner? Moi j'étais parti sur soit Ember Moon, soit Peyton Ross, parce que j'aurais bien vu Peyton garder et faire un duo heel pour qu'une face, que ce soit Ember Moon ou Kairi Sane, vienne défaire les duos iconiques pour gagner la ceinture dans une espèce de joute héroïque. Mais que ce soit Ember Moon, ça me dérange pas, parce que c'est la légitime, c'est celle qui a failli faire perdre Asuka et qui a failli lui prendre la ceinture. Donc, ça soit elle maintenant qu'il la récupère, ça me paraît assez, assez cohérent. J'étais pas très fan de, du look, c'est con, hein, mais du look d'Amber Moon ce soir. Je trouvais que c'était un peu too much. Ouais. Elle avait des mèches bleues, roses, un maquillage un peu. Je sais pas, c'était. Ouais. Pas très bon goût, mais bon, on s'en fiche. Après, il y avait effectivement des spots qui étaient vraiment cool. Moi, je, après ce match, je suis assez confiant sur le roster féminin NXT. Il y a du beau monde. Voilà, maintenant, en plus, je trouve que là où c'est intelligent, à mon sens, Amber Moon est celle qui avait le plus besoin de la ceinture parce que c'est celle, si on met Kairi Sane de côté, qui vient d'arriver, dont le personnage Amber Moon est le moins épais. Nikki Cross, elle a Sanity, elle a son personnage, même si on connaît rien de sa vie, on s'en fout, il est très bien campé. Peyton Royce avec son duo avec Billy Kay, ça marche très bien. Et Amber Moon, elle est bien dans le ring, elle est toujours dans les matchs de titre, mais son personnage, on sait rien d'elle, il est pas vraiment très intéressant. Elle a son trip un peu bizarre, un peu Wonder Woman, gladiatrice, mais donc du coup, il lui fallait quelque chose pour l'épaissir. Donc la ceinture, ça peut être l'occasion pour Amber d'avoir un règne qui va donner un peu de dimension à son personnage. C'est tout ce qu'on lui souhaite à voir.
Ouais. Après, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais en fait...
ce sera pas limite. La première fois, mais vas-y.
Ah, ça y est, ça balance des vannes direct. Amber Moon, je la verrais plutôt heel, en fait. Ah. Parce que je l'imagine en Amazon, tout ça, mais genre, tu sais, qui veut dominer toutes les filles, montrer que c'est l'alpha des femelles ou une connerie du genre.
Ouais, ouais, je vois.
Mais je la verrais plus en heel parce qu'en face, avec le costume qu'elle a et le peu de ce qu'elle montre, en fait, voilà. Ringside dans le chat qui nous dit attention au rain fade, c'est exactement ça.
Ouais, exactement. Après ton trip de Amber Moon, heel qui veut dominer, etc., et devenir l'alpha femelle, ça a vraiment du sens et ça pourrait vraiment très bien marcher. Mais est-ce que ça ne rappellerait pas un peu trop le règne heel, au moins pour sa moitié, d'Asuka, qui était ça, hein, qui était personne ne peut me battre, personne n'est prêt pour moi, je vous domine toutes. Donc finalement, ça aurait fait un peu redite de mettre ça back to back. Donc.
Sinon. Je sais pas. Je vais bosser sur le sujet. J'en parlerai la prochaine fois.
Mais dans tous les cas, ouais, va falloir que ce soit de ce que tu dis ou de ce que Ring dit dans le chat. Effectivement, va falloir qu'elle trouve un angle d'attaque pour avoir un règne intéressant et avoir un personnage qui se développe et pas seulement dans l'adversité et pas seulement en étant la face qui a la ceinture et qui va se battre contre Dean. Non, va falloir quelque chose de plus pour qu'elle montre qu'elle appartient en haut de la carte de NXT et qu'elle ait un bel avenir. Prochain dans le main roster, hein, parce que pour l'instant c'est ça qui lui manque surtout, hein, c'est de l'épaisseur. On sait pas qui c'est, on s'en fout quoi à la limite, donc ça c'est
gênant. Après si on regarde les dernières championnes NXT, enfin bon, Asuka nous a pris un an et demi, donc mais les dernières championnes NXT, ils ont toujours su quand même les écrire plutôt bien, donc
oui.
Sauf, vas-y.
Non, mais les écrire à NXT, oui. Après, les transposer au main roster, c'est plus compliqué.
Oui, non, mais c'est sûr. Ouais. Oui, à NXT, c'est plus facile parce que t'as pas vraiment. Tu peux te permettre de faire de la storyline seulement une fois par mois, quoi. Ouais. Donc, mais ouais, donc du coup, on verra. Ils ont le temps. Mais on s'est bien gouré, donc du coup, dans nos pronos. Alors, Drew McIntyre contre Andrade Cien Almas pour le NXT Championship. Un match très brutal, du coup, tout en force, avec Zelina Vega sur le bord du ring, dont j'ai écorché le nom aussi dans le pré-show. On a fait beaucoup de conneries dans ce pré-show. Bref.
Ça sert à ça, les pré-shows. Voilà, on se laisse emporter par la fougue, par les bières, on raconte de la connerie.
Par la fougue. McIntyre balance fait une démonstration de force, donc du coup tu en parlais tout à l'heure, les grosses rolling souplex, il domine vraiment physiquement. Almas lui il casse quand même de temps en temps, il arrive à reprendre ses esprits, il casse un tornado DDT, moonsault vers l'extérieur, springboard drop kick, Et donc du coup, ça se finit avec, enfin, alors il y a beaucoup d'interventions donc du coup de Zelina Vega. À un moment, elle fait une sorte de, ils disent Spin Rana ou je sais pas quoi, et Almas fait un Hammerlock DDT juste après, mais Drew s'en relève. Mais à force d'intervention, Drew, il est de plus en plus fatigué là, hein, de se concentrer sur deux personnes. Et puis à un moment, inattention, il se prend un DDT d'Andrade, où Andrade Cien Almas porte carrément Drew pendant deux bonnes secondes avant de le planter. Et puis voilà, 1, 2, 3. Alors pour le coup, nous on s'est gouré, mais alors je pense que tout le monde s'est gouré.
Ouais, moi aussi j'aurais pas parié sur Almas.
Champion. Clairement. Andrade champion. Ensuite, on a appris que Drew était blessé, mais je dois dire, parce que Ringside m'a demandé de le dire, non, Drew n'a pas perdu parce qu'il était blessé. Voilà. Coupez court aux rumeurs. Ringside, il a appelé Drew hier. Ouais. Bon, bro, comment ça va? Tout ça. Et voilà, il a eu confirmation. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? La victoire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment Andrade, tu lui fais confiance?
Déjà, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, donc on a bien confirmation, il est réellement blessé, McIntyre au bras, au biceps, un truc comme ça. Mm-hmm. C'est sûr.
Oui, c'est sûr. La zone de blessure, je ne l'ai pas vérifiée, bien entendu. Mais parlons d'abord du match. Le match, ouais. Tu as trouvé comment?
Alors, le match, moi j'ai bien aimé sur plusieurs points. Alors, déjà, le truc était assez impressionnant, c'était vraiment de voir cette présence, cette domination physique de McIntyre qui est juste un bœuf, quoi. Ce mec, c'est Conan, quoi, dans le milieu du catch. Tu lui mets un paille en fourrure avec des chaînes, hein, plus ou moins ce qu'il a, et c'est crédible. Il a vraiment une dimension qui est énorme. Et ce qui était très drôle, c'est le début du match, tu vois Andrade Cien Almas, qui est déjà lui aussi un beau bébé, hein, qui lui arrivait au niveau du menton. Et Zelina Vega, qui se met face à Drew McIntyre, elle lui arrive au niveau des pecs, quoi. C'était vraiment par la mépec, c'était...
Ah oui, wow. Il y avait ce jeu au début, oui, où Drew était assis, enfin, il était sur un genou, je crois, et puis il faisait à peu près la taille de Zelina, et à un moment, il s'est relevé, enfin, juste après, il se relève. Un mètre de plus.
C'est ça, c'était absolument énorme. À mon avis, moi j'ai bien rigolé, il y avait jusqu'après que Drew McIntyre mette un septic cross sur Almas, il y a le public qui chante Free MB, donc un petit souvenir de cette équipe foireuse à laquelle était Drew McIntyre.
C'était méchant, j'ai tweeté, à ce moment-là j'ai tweeté, ouais, sur le compte de Ketchup, j'ai dit je vous aime bien Houston, mais les chants Free MB, non. Non.
Ouais, le public était bien quand même ce soir, hein. Et donc Ringside nous confirme dans le chat, donc la blessure de Drew McIntyre, c'est au biceps. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps à guérir. Chirurgie, on peut peut-être.
Possible. Ouais, alors possible, c'est chirurgie. Possible. Hein. WWE.com nous dit possible. Comment
opération.
Alors, entorse. Ouais. Possible entorse du biceps. Mais voilà.
Surtout, il est gros le biceps de McIntyre, donc ça demandait du temps à opérer ça. Non, sinon le match, moi j'ai surtout été agréablement surpris par Almas, qui a montré, je trouve, des trucs dans le ring qu'il n'avait pas forcément déjà montré au préalable. C'est notamment sa séquence où il envoie avec un Hurricane Rana Drew dans les poteaux, dans les coins du ring, et puis en plus lui envoie un top rope moonsault à l'extérieur. Voilà, c'était une belle prise de ring, high flyer d'Andrade Cien Almas, donc pour rappeler un peu son passé de luchador. Ça c'était cool. Et puis après, voilà, des bonnes interventions de Zelina Vega qui joue bien son rôle, qui prend lors d'un tombé le pied de Andalmas pour le mettre sur la corde pour interrompre le compte de l'arbitre. Bref, non, c'était bien foutu. J'étais surpris à la fin, effectivement, qu'il gagne. Tu fais genre un peu shocking, même si on s'attendait que McIntyre soit happé dans le main roster dans pas très longtemps. On le voyait pas rester 6 mois à NXT. Je le voyais pas gagner maintenant, Almas.
Première défense en pay-per-view.
Ouais, et il a perdu. Donc, wow, assez impressionnant. Maintenant, avec cette blessure, ça change la complexité. Quand est-ce qu'il va avoir son rematch? Est-ce que la prochaine fois qu'il va revenir, s'il est opéré et qu'il reste X mois sur le bas-côté, est-ce que c'est pas dans le main roster qu'on va revenir? On sait pas. Dans tous les cas, sur ce qui va se passer, pour répondre encore à une de tes questions, Almas, il qui a la ceinture, le prochain qui va venir la titiller, ça sera, je pense, effectivement, Aleister Black. Ça me paraîtrait la suite logique de l'histoire.
Pour Drew, le gros souci, c'est que si il était prévu pour, enfin, si là il était sur la rampe pour partir dans le roster principal, se blesser à ce moment-là, ça sort du comment ? Ça veut dire qu'il lui avait prévu une place et que cette place-là, du coup, elle va être prise par quelqu'un d'autre.
Ouais.
Et que et s'il n'y a pas de place la prochaine fois qu'il arrive, et bah, il va arriver, puis il va être là, il va. Enfin, est-ce qu'ils vont pas oser lui faire une taille Dillinger?
Je sais pas. En plus, moi, j'aurais bien vu en termes de timing arriver lors du Royal Rumble. Hein. On est fin novembre. Royal Rumble, c'est dans 2 mois en janvier. Il a le temps de refaire son rematch contre Almas et encore de perdre ou quelque chose comme ça. Et d'arriver en janvier comme une fleur et en pleine pop lors du Royal Rumble. Et là, s'il a opération du biceps, janvier, faut pas y compter. Hein.
Mm. Dakodak.
Donc c'est dommage parce qu'il avait bien réussi à revenir en peu de temps hein, finalement parce que son retour était très rapide, hein, assez fulgurant. C'est clair qu'il avait, il était mûr en termes de ring, il connaît le produit WWE, donc c'est vrai qu'on peut même se demander pourquoi il en fait revenir à NXT. Je pense pour faire le repasser par la petite porte entre guillemets, même si c'est pas une petite porte NXT, mais regagner sa place dans le main roster. Il l'a fait en l'espace de 3-4 mois et là cette blessure, donc c'est triste.
Ouais, puis en plus c'était parfait parce que ça racontait. Il avait même si maintenant bon du coup ils sont passés un peu, ils sont passés un peu à autre chose au niveau de l'histoire, mais c'est son retour à NXT, c'était toute son histoire, c'était du shoot comme on dit.
Ouais.
C'était juste son histoire. Il est parti de la WWE, il s'est un peu perdu, il s'est retrouvé, il s'est reconstruit, il est revenu et voilà bon. Vous allez dire, c'est un truc qu'on a déjà entendu, mais là, pour le coup, quand même, le mec, il arrive, on a l'impression qu'il a 50 kilos de muscles en plus.
Ah, il est incroyable.
Il est bien meilleur dans le ring.
Bien meilleur au micro aussi.
Au micro.
Une belle rédemption. C'est un heel orgueilleux, super pénible. Et là, on revient effectivement à un face qui est dominant et qui gagne ses matchs et qui est honorable et qui en veut. Ouais, c'était une belle histoire de rédemption. Tout était bien écrit à ce niveau-là. Ça c'est clair.
Oui.
Ça c'est clair.
C'est marrant. En plus, quand il est parti, il avait ce visage de jeune, presque jeune bourgeois en fait. Il avait voilà ce visage fin de jeune bourgeois et il revient. Il avait, je crois qu'il quand il est arrivé, il avait un peu de barbe encore.
Ouais.
Il avait un peu de barbe. Il a pris genre. Enfin bref, il était ultra imposant. Bon, on lui souhaite de revenir très rapidement. Hein. D'ailleurs, on nous souhaite qu'il revienne plus très rapidement parce que c'est un de ces gars qui peut vite malgré. Je sais pas quel âge il a parce que bon, maintenant il doit avoir un peu plus de la trentaine, mais c'est un de ces gars qui peut clairement prétendre à faire de grands matchs dans le roster principal.
Ouais, surtout qu'il avait effectivement la confiance à l'époque hein, de la WWE. Donc, il est en 85, McIntyre, donc il a maintenant 32 ans.
Ouais.
Voilà. Donc, il y a encore du bon truc devant lui. Puis en plus, il y a un peu, c'est pareil avec Triple H, comme tu disais, quand il est arrivé en temps à WWE, il a ce côté un peu bourgeois comme Triple H dans son premier gimmick. Mmh. Et là, il nous revient plus en barbare, un peu officiellement Triple H, le côté motard, motorhead, etc. Donc, ils étaient très potes, a priori, à l'époque. Donc, des copains de gym. Donc, on espère effectivement pour lui, pour tout le monde, que la blessure ne nécessite pas de chirurgie et qu'il reviendra rapidement pour choper le programme qui lui était prédit. Et après, Almas en champion, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai trouvé déjà qu'il avait une réaction, il était ultra content. Il savait pas quoi faire de la ceinture, il s'est mis en bandoulière, puis il en changeait au bout de 2 secondes. Il l'a lancé, il l'a récupéré, il était complètement fifou, le Andrade. Est-ce que tu as confiance, pour te retourner ta question, parce que moi j'ai pas de réponse, est-ce que tu as confiance en Almas, en champion?
Non.
Non, hein.
non, mais. C'est-à-dire qu'en fait. Va falloir que Zelina mette les bouchées doubles, qu'elle se transforme véritablement en Paul Heyman.
Ouais. Elle fait du bon boulot. Elle fait du bon boulot pour l'instant.
Oui.
Hein. Elle est,
oui. Mais là, c'est sa seule porte de sortie. C'est voilà. Si elle est plus là, c'est fini. Ouais. Et donc. Faut voir comment ils le build aussi. Est-ce que maintenant, du coup, ils font justement. Quand t'as un manager comme ça, ça veut dire que t'es une force indestructible. Normalement, ça veut dire que t'es quand même physiquement assez impressionnant pour passer outre le fait que tu parles jamais.
Ouais.
Donc du coup, il faut qu'il soit indestructible. Faut que au niveau technique, il soit complètement libéré, que ça soit beaucoup plus excitant que ce qu'il a fait à NXT. Même si ces derniers temps, c'était un peu plus intéressant, mais voilà, faut vraiment le libérer techniquement parce que moi j'avoue qu'il n'y a pas de... Alors je sais, il y a des grands fans, il y a ceux qui l'ont suivi avant qu'il soit à NXT, tout ça. Moi, je l'ai suivi que à NXT et je trouve pas... Enfin, dans le ring, il a jamais fait un match qui m'a vraiment beaucoup marqué à NXT. Hein.
Non, ça montre... On veut qu'il démontre encore un peu son cash. Et effectivement, il avait une bonne pop en arrivant, hein, puisqu'il a été notamment membre fondateur d'une faction au Mexique, Los Ingobernables, très connu. Donc ça, voilà. Mais c'est vrai que la barrière du langage, hein, rien que ça, hein, c'est terrible. Lors d'une dernière promo peu avant takeover, il y a Zelina qui fait une promo et Andrade qui prend le micro à la fin, et même 30 secondes, c'était catastrophique, quoi.
Mais après, Ringside me disait que les ingouvernables, oui. ils parlaient pas beaucoup en fait. Ils faisaient beaucoup de gestuels et de foutage de gueule de leurs adversaires, tout ça. Après, le truc, c'est qu'on peut reprocher à WWE de pas réussir à capitaliser sur un mec qui était super populaire dans son pays. Mais en même temps, on n'est pas dans la même culture, on n'est pas dans le même cadre. Est-ce que ça marcherait aussi, hein, s'il faisait la même chose, s'il avait une faction ici, est-ce que ça marcherait, ce genre de choses? Je suis pas sûr. Donc
c'est pas les mêmes codes, comme tu dis. Donc
voilà,
du coup, faut adapter. Ça demande au moins un gros travail d'adaptation pour que ça marche auprès du public et avec les autres les storylines qui sont lancées. Simplement, c'est pas les mêmes styles de storyline.
Exactement. Alors parlons de quelqu'un qui lui, à mon avis, est trop vieux pour arriver dans le main roster, c'est Roderick Strong, qui était dans le match War Games que vous attendiez tous, acheter le jouet chez Mattel, Undisputed Era contre Sanity, contre Authors of Pain.
Juste une chose, tu veux dire, Roderick Strong est plus âgé de 2 ans de McIntyre.
Ouais, mais alors il a la tête de...
Il a 34 ans, hein, Roderick Strong.
Il a une tête à avoir la 40, je sais pas, il est fatigué. Il est fatigué tout le temps, Roderick Strong.
Il est moins vieux que Bobby Roode, par exemple.
Moi, j'ai l'impression que Roderick Strong, il dort que 3 heures par nuit.
Bah peut-être, mais il est nouveau papa, sa gamine le réveille tout le temps, c'est pour ça. C'est les pleurs de l'enfant.
Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il a des cernes et tout. Enfin bon, bref. Donc, ce match de War Games... les règles sont fort compliquées.
Bon, c'est simple les règles. Tout ça. Si, c'est vrai.
Non, mais les règles sont simples une fois que le match a démarré. Mais avant le match, la façon dont ils nous ont expliqué les règles était pas super claire.
Oh, si, ils ont fait un panneau avec les différents points de règles. C'était limpide.
Non, je veux dire avant le pay-per-view.
Ah oui, avant le pay-per-view, mais ils ont changé aussi.
Ils ont changé, oui, les choses, c'est pour
ben
ça.
Oui.
C'est pour ça qu'on s'est fait niquer.
C'est ça.
Dans le pré-show, après j'ai mis un message en commentaire d'excuses pour vous, public, pour dire désolé, les règles en fait finalement c'était pas ça et machin, parce que, enfin bref, donc ça commence, il y a 3 personnes, enfin une personne de chaque équipe qui arrive dans le ring. Les cages dont je parlais en fait elles sont pas à l'entrée du ring, elles sont en dessous du Titantron. Et donc en fait après un temps
5 minutes
donné, c'est 5 minutes et après 3 minutes machin et tout.
Non, c'est 5 minutes à chaque fois je crois.
Non, c'est 5 minutes. Ouais. Putain, donc ça ils l'ont changé. Ils avaient dit 3 minutes après.
Pendant le show, enfin, c'est 5 minutes, hein, c'est t'as 3 personnes, une de chaque équipe, un peu les capitaines. Les autres sont dans des cages. Au bout de 5 minutes, une cage s'ouvre et les deux partenaires d'une équipe arrivent. 5 oui. minutes se passent, une autre cache s'ouvre au hasard et les partenaires du deuxième équipe arrivent. 5 minutes après, forcément, c'est les deux membres de la dernière équipe qui arrivent. Et là, le match peut commencer puisqu'il ne peut pas y avoir de tentative de tomber ou de soumission, donc la fin de match, tant que les trois équipes ne sont pas au complet dans le match. Et la dernière règle, vu que la cage est ouverte, ça c'est un changement par rapport au wargame d'avant, si un membre d'une équipe sort de la cage en passant par-dessus, eh bien lui et toute son équipe sont éliminés.
Oui, ouais. Non mais la majorité de tout ça on l'avait bon, mais c'est juste l'histoire des chronos en fait, ouais. Sur le descriptif sur www.com ils nous avaient dit c'était 5 minutes et ensuite 3 minutes et machin.
D'accord.
Bref. Toutes ces bêtises pour en arriver à donc Adam Cole, les premiers arrivants, donc c'est Adam Cole, Eric Young et Roderick Strong du coup qui étaient avec
les Authors of Pain.
Avec les Authors of Pain
dans leur tenue.
Mais pour l'occasion, il est arrivé sous le petit espèce de je sais pas de truc militaire là. Enfin bref. Adam Cole se débrouille pas mal. Alors j'ai pas pris de notes pour ce match donc ça va être mais Adam Cole se débrouille pas mal au début de ce match hein. Contre Eric Young et Roderick Strong, mais surtout, il arrive à survivre jusqu'à l'arrivée en premier et de Undisputed Era. Et là, ça va être sévère. Eric Young en prend plein la gueule. Hein. Je pense que c'est le mec qui s'en prend le plus dans tout le match. Eric Young qui saigne un petit peu dès les 5 minutes de match. Hein. Donc voilà. Ça se fout, ça se fout des coups de partout, ça
c'est
fait
le bordel.
Des combinaisons. O'Reilly
et Fish.
Bobby Fish, ouais. O'Reilly et Bobby Fish, c'est un carnage. Hein. Dès qu'il trouve quelqu'un, il y en a un qui le chope, l'autre qui lui fout des coups. Ça balance d'un ring à l'autre. Hein. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça se passe dans deux rings aussi.
Exact.
Donc depuis le début, d'ailleurs, depuis le début du show, en fait, les matchs ont été répartis à chaque fois une fois dans un ring, une fois dans l'autre, etc. Mais là, donc on a ces deux rings qui sont en entier. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des cordes. Il faut passer entre les cordes pour passer dans le deuxième ring, etc. Et au milieu, on a une plaque en métal en fait qui colle les deux rings et c'est une plaque en métal sur laquelle des dos vont être détruits. La deuxième équipe qui arrive donc du coup dans ce match c'est Authors of Pain. Alors Authors of Pain, ils arrivent, ils détruisent tout le monde. Alors ça balance direct du Super Collider là je crois que c'était sur une Disputed Era. Ça balance de la clothesline, ça porte les mecs comme ça tête vers l'avant sur la grille. C'est un cauchemar.
Ah c'est ça, à mon avis, ils balancent d'un ring à l'autre toutes les personnes, ils les jettent en l'air, ils font d'un ring à l'autre et même ils finissent par prendre Roderick Strong et le balancer sur tout le monde d'un ring à l'autre. C'est n'importe quoi, c'est un carnage. C'est la guerre.
Et à la fin donc du coup on a enfin à la fin pour commencer véritablement le match, hein, le moment où on a le droit de faire un tombé ou une soumission, enfin du moins c'est pris en compte, Sanity arrive. Alors on se dit bon, ils n'ont pas gardé Authors of Pain pour la fin. Donc si Sanity arrive à la fin, comment ils vont faire contre des brutasses comme ça? Eh bien, Killian Dane, en fait, Sanity en entier avait prévu ce moment. Hein. C'est presque comme s'ils savaient qu'ils allaient être derniers, puisque mince, comment il s'appelle le grand qui est blond?
Alexander Wolf.
Alexander Wolf, lui, il a prévu la matraque.
Le tonfa.
Il arrive, il ouvre la poche, hop, matraque. C'est gratuit. Bien sûr, on est en ODQ, hein, à part s'ils sortent de la cage. La cage, mais sinon on est en ODQ, hein. tout peut arriver. Donc on a cet homme dont je me souviens encore plus le nom.
Alexander Wolf.
Mon Dieu, Alexander Wolf qui matraque tout le monde. Et pendant qu'il matraque tout le monde, on a Killian Dane qui est pas encore rentré dans le ring et qui est en train de choper quelques trucs dessous. Alors bien sûr le public à ce moment-là il a pas vu assez de sang donc il fait We want tables.
Évidemment.
Donc Killian il s'exécute, hein, il prend deux tables, hein, il ramène un peu difficilement hein, dans la cage avec l'aide d'Alexander Wolf. Et puis après, en fait, on voit qu'il avait eu aussi une chaîne. Et en fait, il enferme tout le monde dans la cage. Hein. Bon, il met aussi 2 minutes à enfermer tout le monde.
C'est parce qu'il y a des grosses mains pour fermer le verrou, c'est compliqué.
Voilà. Et puis après, bah voilà, c'est la guerre ultime. La table met un petit peu de temps à être brisée. J'arrive plus à me souvenir d'ailleurs finalement qui a pris le spot de la table.
Il y a eu un super German suplex à mon nez à travers une table par un des membres de Author of Pain sur. C'est Alexander Wolf qui le fait sur un des membres de Author of Pain en fait sur la table.
Ah,
par un super German suplex.
D'accord. Donc voilà. Je saurais pas vous raconter tout le reste.
C'est tellement le bordel.
Voilà, c'est le bazar de partout.
Moi, j'avais jamais vu un match Wargames, effectivement, c'est le chaos le plus total.
Voilà, c'est là-dedans, il y a quand même un arbitre qui doit surveiller.
Ils sont deux. Il y en a deux.
Il y a deux arbitres.
Ouais, un pour chaque ring, je crois.
Ah, bon, il y a deux arbitres, mais il doit surveiller 9 gars. Qui sont en train de s'en foutre plein la gueule.
Ouais.
Et puis donc voilà, le match il se termine avec Adam Cole qui met le Shining Wizard sur Eric Young et puis qui fait le tomber pour le 1-2-3. Ce que j'ai pas raconté aussi, il y a eu un passage avec Adam Cole où il est bon, bien sûr c'est lui. Adam Cole c'est le heel lâche et donc déjà dès le début du match, il a essayé de sortir. Alors c'était un peu absurde parce qu'il a essayé de sortir de la cage et puis au commentaire on nous rappelle attention disqualification si on sort de la cage et tout. Et puis il y en a un qui a essayé de justifier, je sais plus si c'était Percy ou autre, qui disait non mais en fait ce qu'il voulait faire sûrement c'est se positionner en haut de la cage pour leur sauter dessus et tout. Mais donc voilà. Plus tard, Adam Cole, il a passé quelque chose comme 5 minutes sur le rebord de la cage. Et il y a eu Killian Dane qui a essayé de le déloger, mais qui a pas réussi. Et après, qui s'est attaqué à son pote O'Reilly, qui était dans le coin du ring. Il lui a casé une poubelle sur la face, et ensuite, il a fait un coast-to-coast. Donc voilà, bah, très mauvaise réalisation par contre sur ce passage parce qu'on a vu O'Reilly en train de se placer parfaitement, etc. Je ne comprends pas ce que faisait le caméraman,
le réalisateur, mais... ouais. Ah, tout à fait, là on a vu un peu le montage du spot, c'était dommage parce que quand on voit le gabarit de Killian Dane réussir un coast-to-coast, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, Killian Dane a brillé dans ce match, hein, vraiment, hormis ce moment-là qui est incroyable par rapport à son gabarit. Il a vraiment fait deux doubles combos durant le match qui étaient incroyables. À un moment donné, il a deux mecs, je sais plus qui, sur les épaules. Un, il fait un Samoan drop et un follow away slam sur l'autre dans le même mouvement. Et un peu plus tôt, il aura fait un peu la même chose avec un drop kick et un senton bomb sur deux autres personnes. Je crois que c'est sur les Author of Pain. Bref, Killian Dane, à un moment donné, vraiment a fait des trucs complètement fous. Très très grosse pop pour lui. Ouais, c'était un carnage ce match qui a délivré, hein, c'est un peu ses promesses de guerre totale. Souvent, on peut être un peu sceptique quand la WWE vont hyper des matchs à gimmick, l'enfer en cellule, comme diraient nos amis québécois. Bon, c'est sympa et sans plus. Là, pour le coup, j'étais assez impressionné des risques et des moves, hein, des spots. C'était un match à spots fest, en fait, hein, ce truc. Mm-hmm. Hein, c'était, à un moment donné, pareil, c'était Kyle O'Reilly qui prend une chaîne, qui la met en travers de la gorge et du bras de Alexander Wolf et lui fait un cross arm breaker avec la chaîne en tenant la chaîne comme ça. Enfin, c'est genre...
Je croyais qu'ils étaient. En fait, justement, je croyais qu'ils étaient merdeux au début parce qu'au début, il essaye de mettre la chaîne, tout ça. On voit qu'elle est pas vraiment serrée et tout. Et en fait, c'est au moment où il fait le mouvement pour le cross arm breaker que là, on voit qu'en fait, la chaîne tire clairement sur le.
Ouais. Et puis à un moment donné, la double Tower of Doom. Il y a double Tower of Doom où les deux Author of Pain récupèrent trois mecs donc de différentes équipes. Donc Razar et Akam, et en même temps ils font une Tower of Doom donc du coin des deux rings à côté. Il y a juste Adam Cole qui reste au milieu, qui est le seul à pas avoir été impliqué dans cette entreprise de carnage. C'était ouais non ok, ils ont joué à fond la stipulation, ouais. Et ça c'est bien.
Pour les gens qui l'ont pas vu, en fait, c'est y a les deux rings qui se rejoignent donc du coup au milieu, et c'est les deux coins du ring qui sont des deux rings qui sont les plus proches, et on a Adam Cole qui est assis en fait au milieu en fait derrière ces poteaux là, et en fait il est juste derrière deux autres, enfin il y a deux gars sur un poteau, deux gars sur un autre, et les Authors of Pain qui viennent les récupérer, et donc du coup Adam Cole qui est juste tout content juste après que tout le monde se soit rétamé, lui il est tranquille. Un match qui a, alors forcément il y a ceux qui voulaient l'ancien Wargames, les règles leur vont pas, blablabla, il y avait pas de toi. Alors il y avait pas de toi, ça c'est l'histoire, c'est l'histoire de la semaine ça. Hein. Oh mon dieu.
Vraiment.
Il y avait pas de toi, ça m'a ruiné le match.
C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé pour ça.
Il y a eu, ouais, enfin dans les podcasts et médias américains, bon, il y a toujours un ronchon, il y en a toujours un. Mais
ça a permis une belle comme ils appelaient ça, une Everest superplex de Roderick Strong, donc il se trouve en haut en chopant Adam Cole en faisant une superplex du haut de la cage sur tout le monde.
Ah oui, mais j'ai oublié ça.
C'était pour ce spot là qu'ils ont enlevé le toit, hein, vraiment c'était pour, ouais, ça, pour cette Everest superplex. Donc toujours Morello qui trouve des noms assez originaux à ces prises complètement fucked up qui sont faites sur le poteau ou le haut d'une cage. Donc voilà, c'était pour avoir un bon spot, et qu'est-ce que ça a amené d'avoir un toit, on s'en fout quelque part, enfin.
Ouais.
2017 quoi. Merde.
Alors, Ringside, c'est son match de l'année, juste pour les gens qui veulent savoir.
Wow. Okay.
Moi, j'ai adoré ce match. Je pense que c'est à cause de la réalisation que je l'ai pas trouvé parfait, et il y a des moments où j'avais l'impression de regarder des mecs organiser des spots. Mm. En fait, il y a quelques fois où ça m'a un peu sorti du match, où je voyais genre tel mec se place, il y en a un qui attend l'autre. Enfin, j'ai vu quelques petits trucs comme ça, et du coup ça m'a un peu sorti.
Ouais, je comprends.
Mais à part ça, enfin, ils sont donnés. Je trouve aussi que, alors pour pas les, moi je les ai pas suivis dans les indés, mais Bobby Fish et O'Reilly. O'Reilly, j'avais déjà vu à NXT, enfin dans des bons matchs et tout. Mais je pense que là, ce match-là, il m'a surtout, si je dois retirer un truc, il m'a surtout prouvé que Undisputed Era, c'est peut-être moins Adam Cole. Adam Cole, je suis toujours. Adam Cole, c'est le charisme, mais au niveau du catch, moyen convaincu. Mais par contre, Bobby Fish, O'Reilly, c'était monstrueux dans ce match.
Ils sont stiff à souhait. Et c'était ça, en ça aussi, que le booking est bien de ce match dans le choix des vainqueurs. Parce que tu le dis, il fallait qu'on nous convaincre que Undisputed Era, c'est pas que de la gueule. C'est pas que Adam Cole et ses deux potes qui disent, ouais, nous, on va tout dominer, on va tout défoncer. Ben non, il fallait que là, ils gagnent, en fait, pour les rendre crédibles. Et encore une fois, c'est un match dans lequel les perdants, entre guillemets, Sanity, Author of Pain, n'en ressortent pas affaiblis, n'en ressortent pas diminués. Mmh. Donc c'est très bien, c'est malin de les mettre effectivement en gagnant pour qu'ils soient une menace crédible dans cette stipulation complètement folle. Non, c'était bien joué.
Oui, voilà, et de toute façon, Undisputed Era avait l'avantage. Alors c'est marrant parce qu'on dit par exemple dans un Rumble, t'as le désavantage d'être premier, etc. Mais alors pour le coup, là dans ce match-là, t'as plus l'avantage d'être la première équipe.
Ouais.
Et donc Undisputed Era avait cet avantage-là avec eux dès le début.
Exactement.
Kevin Owens était là avec son t-shirt Undisputed Era pour les curieux. Et Kevin Owens qui a aussi tweeté pour saluer la prestation de Velvet in Dream, qui a dit « Ne t'inquiète pas gamin ». On se souviendra de ton nom. Enfin, ton nom sera encore prononcé pendant des années.
Grande classe, monsieur Owen, grande classe.
Donc voilà, un homme de goût.
Hein, eh oui.
Et puis, c'était la fin de ce NXT War Games, enfin Takeover War Games. On va passer au top, au flop et à la note. Je cherchais le nom de la rubrique, je ne me souviens plus.
Le mot de la fin.
Le mot de la fin, voilà.
Et Alexander Wolf. Si tu cherches son nom, c'est Alexander Wolf.
Alexander Wolf.
Ouais.
Alexander comment?
Wolf. Alors... Comme le baron. Le top, bon, le match Velvet in Dream et Aleister Black. Hein. fabuleux, de bout en bout, à tous les niveaux, génial. Le flop, c'est dur de trouver un flop. Il y a un flop que je vais te laisser, je pense que tu vas le dire. Donc, je vais plutôt dire le flop de la blessure de McIntyre, qui est, voilà, bon, c'est pas sa faute, c'est la faute à personne, mais vraiment très très dommage. Et une note, un bon 4,5, quoi. Hein, c'est, le 5 était pas loin, mais non, 4,5, c'était 4,5 bien mérité.
Dakodak. Bah moi mon top qu'est-ce que ça va être mon top, parce que ouais non mais je vais essayer d'être original, sinon j'aurais mis non je vais mettre Velveteen Dream tout seul. Tiens, je vais mettre Velveteen Dream tout seul parce que finalement le alors les deux ont fait de ce match ce qu'il est, mais Velveteen Dream a bien prouvé aux gens que c'était un vrai catcheur, que c'est pas juste un personnage, que son personnage est encore plus intéressant que ce qu'on pensait.
Ouais.
Donc voilà, c'était une réussite totale. À la fin, il a le petit salut Twitter de Kevin Owens. Tout va bien, c'est la... Il faut continuer dans cette voie. A plus, continuer dans cette voie sur le bulletin de notes. Du coup voilà, et le flop, ouais je mettrais le flop à la réalisation, hein. Autant ça m'a pas forcément gêné pour les autres matchs, même si le match féminin aussi il y avait du truc de Real qui était pas terrible, mais alors pour le Wargames là je trouve que il y a eu un souci dessus, je pense qu'ils l'ont remarqué, hein. Je suis persuadé que les mecs ils regardent le pay-per-view, ils se rendent compte mais après c'est pas facile, c'est la première fois qu'ils font ça depuis super longtemps. Il y avait un caméraman qui était entre les deux rings qui devait à mon avis bien galérer, hein.
Il y en a un qui s'est ramassé Killian Dane, à mon avis il filmait, c'était lui qui était dans le stream à ce moment-là, et on voit Killian Dane qui recule et qui devient de plus en plus énorme et d'un coup ça devient noir. Je pense que le caméraman a eu très peur.
C'est que je me souviens pas de ce passage. Donc voilà, ouais, ils avaient pas tout calculé. Est-ce que bon, si c'est quand même la WWE, donc quand même ils sont censés savoir ça quand couper, etc. Donc voilà, ouais, il y a ces tout petits moments de flottement qui m'ont sorti du truc. Mais à part ça, enfin le match était, j'ai pas senti, même si on parle de chaos, on parle de destruction, de spotfest, etc. J'ai pas senti que qu'il y en avait un de perdu en fait dans le match. Tout le monde était dans la, comment, tout le monde savait quoi faire à quel moment, et ça c'était quand même assez fort, parce que avec ce nombre de personnes là, organiser un match et savoir quand qui fait quoi, à quel moment, comment on s'organise, etc., pour faire un match qui dure 30 minutes, c'est
ça durait pas 30 minutes, il durait 50 minutes ce putain de match.
Je dis 30 minutes, oui. Moi, je suis plus. 45 plutôt.
Ouais, peut-être. À juger.
Mais oui, non, c'est vrai que c'était plus de 30. Mais bref, un match marathon comme ça qui a été exécuté quasiment de main de maître. On en reveut tous les jours et c'est plus intéressant que faire un énième Hell in a Cell. Hein.
Ou un Elimination Chamber.
Ouais, non, ça reste assez rare, les Elimination Chambers, ça me va. Mais les Hell in a Cell, maintenant, ils en font. Ils en font même en dehors des Hell in a Cell. Donc voilà. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on a dans le chat? Je regarde vite fait. Désolé, j'avais un doute, mais depuis une demi-heure, je devais savoir. Brain Dead. Petite question. Le monsieur à gauche, c'est Simon Brochard. Mais oui, c'est Simon Brochard. Il est démasqué. Mais on l'appelle l'amiral, ici.
L'amiral Armbar.
Il a une identité pour chaque média. Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je remercie l'amiral.
Un grand plaisir. Prendre... Pour un show de qualité comme ça, c'est toujours un grand plaisir.
Et vous pouvez nous écouter sur iTunes, vous pouvez nous écouter sur PodCloud. Vous pouvez bien sûr nous regarder, si vous êtes dans le chat, vous le savez, sur YouTube. youtube.com/catchupcdc. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire avec votre réaction sur le pay-per-view. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos analyses ou pas? Laissez un pouce vert pour nous montrer si vous avez aimé le podcast. Et puis n'oubliez pas, cette semaine ça va être marathon de la mort. On a une review de Survivor Series, on va avoir une review de Raw, on va avoir une review de SmackDown. Ça va bosser sec. Moi, je vais prendre des vacances parce que ça fait 3 jours que je suis ici.
Il est bloqué. Il est under siege.
Je suis totalement under siege de cette chaîne. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci aux gens dans le chat. N'oubliez pas, on fait tout en live maintenant. Donc, twitter.com/catchupcdc. On vous prévient dès qu'on part en live et on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. À bientôt.
Salut!